Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Guillaume Lavoie. Santé, identité, environnement, éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Guillaume Lavoie.
Une des perspectives les plus riches, les plus éclairantes pour comprendre le monde et les relations entre les gens, les entreprises et les pays, c'est l'énergie. Tout le monde en veut, tout le monde voudra en produire, tout le monde en importe. Et pour comprendre justement le rôle de l'énergie dans les enjeux de relations internationales, qui de mieux qu'Yvan Klisch, spécialiste des questions de l'énergie et membre du CERIUM, pour en parler avec nous. Bonjour Yvan.
Oui, bonjour Guillaume.
Alors, Yvan, il s'est passé, appelons ça, un tremblement de terre politique aux États-Unis. Et là, je parle pas des frasques de Donald Trump, mais de ce fameux plan pro-climat, pro-énergie verte, finalement adopté par l'administration Biden, ou presque. Il reste encore là, à signer quelques documents. Mais parle-nous de la taille de cet enjeu-là et qu'est-ce que ça va changer à l'échelle américaine, à l'échelle continentale et mondiale.
Mon Dieu, j'ai presque le goût de dire que quand on est une grande puissance, on fait l'histoire à tous les jours. Et cette loi-là, effectivement, pour moi, c'est vraiment une pierre importante là, dans l'édifice ou dans l'édifice de construction des grands efforts qu'on doit déployer pour atténuer l'impact des changements climatiques sur nos vies, sur la vie sur Terre. Comme on pourrait presque que l'exprimer. Les Américains ont été les plus gros émetteurs historiques. Ils sont maintenant les deuxièmes plus gros émetteurs après la Chine. Donc, c'est clair que si eux ne participent pas à cet effort pour diminuer la production des gaz à effet de serre, ben le combat va être d'autant plus périlleux et difficile. Alors, la loi a été adoptée effectivement par le Sénat. Et moi, j'aimerais dire c'est une loi. Ça veut dire qu'on doit atteindre les objectifs qui sont prescrits. La première mesure, bien sûr, ou le premier objectif, c'est la baisse des gaz à effet de serre. Et là, on parle d'un niveau de 40% par rapport au niveau d'émissions de 2003.
Ce qui est gigantesque en soi, là, comme annonce.
C'est énorme quand on y pense quand même. On parle d'ici 2030, c'est presque la moitié des émissions qui sont émises par l'économie américaine dans une année. On veut les diminuer de presque moitié.
Bon, alors, 40%. Yvan, je suis obligé de te demander, Yvan Klisch, est-ce que c'est tellement gros, c'est tellement phénoménal comme objectif, est-ce qu'on est dans la surenchère des communiqués de presse ou c'est crédible l'annonce qui est faite?
Moi, je pense que j'ai passé la loi en revue, mais c'est quand même 700 pages. Puis effectivement, ce qui vient comme commentaire ou impression, c'est que si tout ce qui est indiqué là-dedans se déploie correctement, bien sûr qu'il y aura certainement des enjeux au niveau de l'exécution, de l'implantation, mais si tout là-dedans est mis en œuvre, on va certainement tendre pas loin de cet objectif. Je donne quelques exemples. Il y a quand même un crédit de 7 500 $ pour les véhicules électriques. Contrairement à ce qu'on voit au Canada, il y a même aussi un crédit de 4 000 $ pour les véhicules électriques usagés. Mais ça fait la différence. Un crédit de 7 500 $, ça fait vraiment la différence dans une décision d'achat entre y aller encore avec une voiture à essence ou une voiture électrique. L'énorme parc de véhicules du service postal américain, 300 000 véhicules va être remplacé petit à petit par des véhicules électriques. C'est important. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne d'approvisionnement des fournisseurs qui vont se mettre de la partie pour remplir cet objectif. Et puis, ça veut dire, bien sûr, qu'on va améliorer avec le temps les technologies et les coûts.
Et ça, Yvan, juste un mot, parce que ça, c'est quelque chose dont on sous-estime profondément l'impact. Les gouvernements ont essentiellement deux bras pour agir, la réglementation, l'investissement et autres, mais on oublie que les gouvernements sont des joueurs eux-mêmes particulièrement imposants. Le nombre d'employés, le nombre de véhicules, le nombre de bâtiments. et que en transformant la manière dont ils opèrent, ils envoient des signaux extraordinairement puissants dans le marché. Et là, 300 000 véhicules pour le service postal américain. Et ça, c'est le gouvernement américain qui décide de le faire lui-même. Ça, il y a peut-être une leçon pour le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral là-dedans.
Oui, puis il faut pas oublier également, Guillaume, il y a l'armée américaine, on le sait, l'armée la plus imposante du monde et de loin. Je rappelle que l'armée américaine à elle seule est plus grande que les 10 autres armées des autres pays qui suivent. Et même l'armée américaine a décidé de se mettre la partie. Elle a lancé un appel de proposition pour que tous ces édifices, très nombreux édifices, dispersés un peu partout aux États-Unis et dans le monde, soient alimentés par des énergies renouvelables.
Imagine le Pentagone, Yvan, tu sais que c'est le plus grand édifice au monde. Alors ça aussi, ça enverrait tout un message.
Oui, et puis l'armée américaine, c'est le plus grand consommateur, c'est l'institution qui consomme le plus de pétrole au monde. Donc, quand on a des contrats auprès de cette vaste institution, c'est sûr que ça fait en sorte que tous les gens dans le marché, là, du côté des énergies renouvelables, ben ils s'allient, ils se préparent, ils font des partenariats, puis ils veulent gagner des parts de marché. Et puis tout ça, évidemment, comme tu l'as mentionné, ça structure une économie. Ça fait en sorte qu'on améliore les produits, qu'on diminue les coûts. Et puis, ça fait en sorte que petit à petit, on arrive vers effectivement l'objectif de diminuer les gaz à effet de serre. Donc, ça a vraiment une grande importance. Puis là aussi, je dirais aussi un autre élément, c'est que on avait mentionné peut-être dans une entrevue il y a quelques temps, on en discutait, mais c'est très important aussi que les États-Unis se présentent à la COP28, là, la conférence des changements climatiques qui va avoir lieu en Afrique cette année, en disant, mais écoutez, on a un plan, parce que c'est très dur d'aller inciter d'autres pays à participer, à jouer le jeu quand vous-même vous n'avez pas réussi à faire adopter un plan à l'échelle nationale.
Oui, le leadership se vit par l'exemple. Dernière question, Yvan. Pendant très longtemps au Canada, particulièrement au fédéral, on l'avait un peu facile en se disant, on se cache derrière le fait que notre voisin est tellement pire que nous. Là, les États-Unis viennent de s'installer dans un rôle de leader qui relègue derrière eux un paquet de pays, dont le Canada. Comment vois-tu l'impact de ce changement-là aux États-Unis sur la politique canadienne?
Ben, moi, je pense que ça va avoir un impact très intéressant, d'une part sur le plan économique, parce que c'est notre principal partenaire. Les Américains, c'est très important de le mentionner, n'ont pas exclu les crédits qui sont indiqués dans la loi. N'exclut pas les partenaires qui ont des accords de libre-échange avec les États-Unis. Ça veut dire que le Canada et le Mexique pourront participer à ce vaste déploiement d'actions en pro-climat. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que ce sont des opportunités d'affaires très importantes pour l'industrie des énergies renouvelables au Canada et également au Québec. Et puis, bien, c'est sûr que, encore une fois, ça donne bien sûr un élan pour que nous aussi, on fasse notre part. On le sait, au Canada, comme aux États-Unis, on est aussi un peu dans la division à l'égard des changements climatiques. La plupart des gens disent oui, il faut combattre, mais il faut aussi aider notre industrie pétrolière. D'autres vont dire non, il faut la stopper. Alors, c'est clair que pour nous, au Canada, ça réactive ce débat à savoir où on veut loger dans l'ampleur du combat qu'on doit mener sur cet enjeu-là. Et c'est certain que ça indique ça donne un coup de pouce, encore une fois, à l'industrie des renouvelables. Puis d'ailleurs, je permettrais de dire que les tenants des énergies renouvelables le disent, ils ont aussi raison. Il y a des bons emplois qu'on peut obtenir dans ces industries-là maintenant. Quand vous installez des panneaux solaires, quand vous installez des éoliennes, quand vous en faites la maintenance et vous en faites l'exploitation, ce sont des emplois qui sont extrêmement bien payés, autant que dans l'industrie pétrolière. Donc, ce qui se dessine pour l'avenir, c'est qu'un certain transfert des emplois des industries des énergies fossiles, une attractivité beaucoup plus forte pour les énergies renouvelables que pour l'industrie des énergies fossiles. Et je mentionnerai au demeurant que l'industrie justement du pétrole et du gaz a aussi de grands problèmes de main-d'œuvre. C'est évidemment très difficile d'aller attirer des hommes dans cette industrie-là, alors qu'ils savent maintenant, ce qui n'était pas le cas autrefois, qu'ils peuvent travailler maintenant dans de vastes organisations qui va installer des panneaux solaires.
Tu as raison, Yvan, sur l'idée que les énergies vertes, c'est beaucoup des emplois. Il y a un terme pour lequel j'ai pas encore trouvé de variant francophone, un appel à tous ici, c'est Greenomics. Il faut penser les énergies vertes comme créatrices d'emplois au niveau local, et ça va être intéressant de suivre la suite. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça. Yvan Klisch, spécialiste des questions d'énergie et membre du CERIUM, merci beaucoup, puis bon week-end.
Merci, au plaisir.